Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Au cours des deux premières émissions, vous nous avez relaté votre parcours de bibliste et nous avions prévu de revenir sur certains sujets que vous n'aviez pas pu développer. Vous nous avez notamment fait part de votre fascination pour un personnage très connu de l'évangile de Jean, Lazare de Béthanie, que Jésus a ressuscité alors qu'il était mort depuis 4 jours. Vous lui avez même consacré votre thèse de doctorat en exégèse biblique, ainsi qu'un livre intitulé « Lazare », paru en 2004 chez Bayard. L'histoire de Lazare est un bel exemple de ces grandes pages d'évangile que l'on croit bien connaître, mais qui n'ont jamais fini de révéler leur richesse et leur signification profonde. Avec nos auditeurs, je suis donc curieux, père Alain, de connaître votre regard d'exégète sur cet incroyable récit de résurrection qui défie la raison depuis 2000 ans. Il met en scène les disciples de Jésus et 3 de ses amis intimes, Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Avec eux, nous sommes confrontés au drame humain de la mort d'un être cher, mais aussi à des révélations sans précédent sur la personne de Jésus. Nous allons donc relire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 1 à 46 dans la version de la Tobe. Nous le découperons en 5 fragments, au gré des rencontres de Jésus, avec les différents personnages du récit. Après chaque lecture, nous laisserons place aux questions et aux commentaires, en espérant rejoindre les interrogations de nos auditeurs. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'a pris, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Le début de cette histoire est plutôt surprenant, voire même choquant, père Alain. Jésus apprend que son ami Lazare est malade, et au lieu d'accourir à son chevet, il semble prendre son temps.
Oui, c'est vrai, il faut que nous acceptions d'entrer dans un cycle de narrativité. C'est un récit qui raconte avec beaucoup de justesse et qui met en scène dès le départ les 3 figures qui vont nous occuper, avec en particulier le silencieux du récit, Lazare qui ne parle pas, mais qui en même temps mobilise les 2 sœurs, puis mobilisera, on pourrait dire, tous les croyants tout au long de l'histoire. Ce silence de Lazare ouvre, on pourrait dire, un grand chemin de sens, comme on pourra le vérifier dans la suite. Alors, vous me dites, c'est surprenant? Non, c'est-à-dire qu'on pose les personnages, on pose aussi le manque, car vous savez que pour qu'il y ait récit, il faut qu'il y ait un manque, et le manque va engendrer toute une péripétie d'épisodes, à la fois, je dirais, narratifs et à la fois kérigmatiques, c'est-à-dire théologiques. Ça, c'est la grandeur et l'originalité de Jean, de savoir à la fois mêler du narratif, des récits, et de la révélation au cœur même des récits, et ça, c'est unique, on pourrait dire, dans les 4 évangiles, Jean est le seul à avoir cet art de mettre ensemble narrativité et gloire du Seigneur.
Il va même essayer de créer un certain suspense, on dirait aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler. D'ailleurs, le rapport au temps est très intéressant dans ce texte, parce que dès le départ, on joue avec le temps. Et vous avez remarqué comme moi que l'auteur nous ouvre sur une perspective qui n'est pas encore arrivée au plan du récit, puisque l'expérience que fera Marie de l'onction qu'il donnera à Jésus n'est pas encore racontée. Mais en même temps, en introduisant cette notion de l'onction faite à Jésus, on nous ouvre déjà le chemin autour de la mort de Jésus, parce que cette onction, c'est une onction pour la mort qu'elle fera à Jésus. Donc nous sommes déjà dans un contexte de mort, la mort de Lazare bien sûr, mais aussi celle que préfigure, peut-être que signifie la mort de Lazare, celle de Jésus lui-même.
Alors, selon Jésus, le pronostic vital de Lazare n'est pas encore engagé, et sa maladie va servir à la gloire de Dieu. Comment Jésus peut-il faire à distance un diagnostic sur la santé de Lazare? Et comment une maladie peut servir la gloire de Dieu et celle du Fils de Dieu?
Oui, bien sûr, vous abordez les questions peut-être d'un point de vue trop réaliste. Je crois que c'est ça le genre littéraire de l'évangile de Jean, c'est-à-dire à la fois de mêler des éléments de révélation. Jésus maîtrise le temps, Jésus sait un certain nombre de choses, il est le Seigneur, et en même temps, tout en étant le Seigneur, il est celui qui s'inscrit dans une histoire, dans un récit, dans un déroulement de récit, le temps, c'est le temps qui est présent, depuis le début jusqu'à la fin. Son temps n'est pas encore venu, le temps de Lazare non plus. Lazare, c'est le silencieux, et entre Marthe et Marie, il va y avoir d'abord une unité profonde. Vous avez remarqué que elles sont totalement unies au niveau où nous en sommes. C'est-à-dire, elles sont toutes les deux sœurs de Lazare, elles se préoccupent de la santé de Lazare, elles vont trouver Jésus. Il y a une unité qui va se rompre un peu plus loin lorsque chacune aura, au fond, son propre parcours, comme nous le verrons plus loin.
Nous poursuivons l'histoire. Jésus demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement il dit aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent « Rabbi, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et je suis heureux que pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Jésus décide donc de partir voir Lazare, mais ses disciples s'inquiètent pour sa sécurité. Certains veulent le tuer. Il leur répond par une parabole sur la lumière. Quelle est cette signification? Peut-elle rassurer ses disciples, Père Alain?
Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il faut que nous acceptions de trouver dans le texte à la fois, comme je vous le disais, de la narrativité et en même temps des ouvertures vers le mystère de Dieu. « Je suis la lumière du monde », dira Jésus. Jésus raconte son propre destin envoyé par le Père, lui qui est la lumière venue pour nous éclairer. Et en même temps, la séquence que nous commençons à découvrir, elle est très centrée, elle est très, très bien articulée, on pourrait dire. Elle est centrée sur Jésus et les disciples, avec à la fois une logique, on pourrait dire, qui est marquée par la façon de raconter, la première personne du pluriel, c'est le « nous » qui est présent dans ce texte, c'est Jésus et les disciples, parfois Jésus face aux disciples, mais c'est « nous », notre ami Lazare s'est endormi, cette plénitude au fond de réflexion, de méditation, d'enseignement. Elle est très concentrée dans ce petit morceau. Et vous voyez, ça se termine un peu comme ça a commencé. Les Juifs voulaient te lapider, la mort menace. Et Jésus dit, Thomas, allons et mourons avec lui. C'est-à-dire, nous sommes au fond dans un contexte, quelque chose a été ouvert, quelque chose a été ébauché, et nous allons entrer dans, on pourrait dire, les étapes successives qui vont nous permettre de comprendre, au fond, ce que veut dire Jésus quand il parle de la lumière, et ce que veut dire aussi sa marche vers la mort, celle de Lazare qui est supposée, mais aussi la sienne, et les disciples même, Thomas étant celui qui évoque la mort possible de chacun d'entre eux.
Jésus utilise la métaphore du sommeil pour parler de la mort de Lazare, justement. Mais cela provoque un quiproquo avec ses disciples, surtout quand Jésus parle d'aller le réveiller. Comment peut-on interpréter ce quiproquo entre sommeil et mort ?
Encore une fois, il faut toujours se dire que dans le récit lui-même, il y a un décalage entre la façon dont Jésus vit l'événement. Jésus, il est au-delà de la perspective des apôtres. Et donc son langage, c'est un langage, comme vous le dites, métaphorique, c'est-à-dire il utilise des images, il s'est endormi. Et un peu naïvement, les disciples, c'est ce qu'on appelle la méthode du malentendu. L'évangile de Jean est très marqué par ces modes de fonctionnement, où tout à coup Jésus introduit quelque chose qui peut être compris de deux façons. Il s'est endormi, je vais le réveiller. Et Saint Jean Chrysostome, qui a écrit de beaux commentaires sur ce passage, se disait, en commentant ce passage, « Ces disciples, ils sont vraiment stupides. Vous pensez que Jésus va faire 25-30 kilomètres uniquement pour aller réveiller Lazare ? » Non, c'est un malentendu. Mais le réveil symbolise déjà, au fond, la sortie de la mort. Et c'est ça qui est évidemment très significatif.
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Marthe vient de perdre son frère et elle a encore de l'énergie pour dire à Jésus sa foi et son espérance la plus folle. Comment peut-on interpréter ce dialogue bouleversant ? Comment Marthe peut-elle formuler une confession de foi aussi précise, Père Alain ?
Situons-nous toujours dans le cadre du récit. Pour la première fois, les deux sœurs sont dissociées. Jusque-là, elles étaient unies dans la démarche, dans le rapport à leur frère, dans la requête faite à Jésus. Et à partir de maintenant, elles sont dissociées. Il y a aussi tout un enseignement théologique qui nous est donné dans cette dissociation. Marthe vient et ce qu'elle dit va prendre toute sa signification face à ce que dira sa sœur. Donc il faut relier les deux. Vous avez remarqué qu'elle dit, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » C'est-à-dire, il n'y a pas de reproche dans sa bouche. Elle reconnaît que Jésus absent, Lazare est mort. Mais, lui présent, la mort peut être vaincue. Donc il y a là une dimension d'ouverture avec cet accent extraordinaire. « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » On est dans, on pourrait presque dire, dans le ciel, on est dans la gloire de Dieu. Et certains commentateurs, quand ils commente ce passage, disent « On a le sentiment qu'on a presque oublié Lazare, tellement c'est splendide cette confession, mais l'auteur a écrit ça avec beaucoup d'habileté parce qu'il a effectivement écarté Lazare pour le moment. On est dans la confession de foi. Jésus, vous avez remarqué, ça c'est à noter aussi, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un enseignement très riche qui transparaît dans la narrativité. C'est un récit qui enseigne, c'est-à-dire Jésus, dans un premier temps, confesse la foi juive. Ton frère ressuscitera, il est juif. Comme tous les juifs, il croit qu'à la fin des temps, il y aura une résurrection. Et dans un deuxième temps, il y a un saut mais extraordinaire qui est fait, non plus seulement confesser la foi juive, mais confesser qu'il est au cœur de la foi et que en lui, la mort est vaincue. Ça, c'est la nouveauté. On est au cœur même du mystère chrétien. Et à ce moment-là, Marthe, au fond, peut laisser la place et que sa sœur vienne pour avoir son moment, on pourrait dire, mais ce moment qui va mettre en valeur aussi un aspect de la vie de Jésus, son humanité, bien sûr, mais aussi la différence entre Marthe et Marie. Les deux sœurs se sont dissociées là, comme si elles voulaient l'une et l'autre signifier quelque chose du mystère du salut, la douleur de la mort et puis la grandeur de la résurrection.
Là-dessus, Marthe partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait !» Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Marie est plongée dans la douleur avec ses proches. Comme Marthe, elle dit à Jésus que s'il avait été là, son frère ne serait pas mort. Mais elle en reste là. Et sa remarque pourrait être comprise comme un reproche. Est-ce bien son état d'esprit, Père Alain ?
Nous comprenons mieux par cette scène le parallélisme entre les deux scènes. C'est au même endroit, Marthe est repartie, Marie vient au même endroit, et la séquence ici va suivre la première qui était une séquence glorieuse, c'est une séquence funèbre, c'est la mort. C'est la mort qui domine. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est un reproche. C'est un constat. Et ici, à la différence de la séquence entre Jésus et Marthe, ici, nous allons avoir le deuil qui va se rendre présent, les pleurs, le trouble, le tressaillement. Jésus touche le mystère de la souffrance et de la mort. Et on a souvent remarqué, si vous avez une familiarité avec l'évangile de Jean, vous vous en souviendrez, que dans Jean, il n'y a pas d'agonie de Jésus. La partie de la passion de Jésus qui vit son agonie est effacée. Mais Jean l'a distribuée autrement, son agonie. Et pour une part, elle est ici. C'est-à-dire, la mort de Lazare, c'est d'abord une souffrance pour Jésus. Son ami est mort, et donc il assume cette souffrance. Et Marthe, Marie et les Juifs qui sont venus là pour la consoler accentue en quelque sorte ce thème du deuil, le deuil que Jésus vit. Et Jésus est troublé, il se révolte d'une certaine manière, c'est l'agonie. Cette agonie qui le conduit à pleurer parce que Lazare est mort et que lui-même, au fond, voilà une sorte d'anticipation de sa propre mort. Et on a souvent fait remarquer ce parallélisme, au fond, entre la mort de Lazare et la mort de Jésus. L'agonie. Jésus, et alors nous devons, c'est là que nous sommes appelés à faire une démarche riche, nous devons prendre ensemble le Jésus en gloire confessé par Marthe et le Jésus en détresse confessé par Marie.
Père Alain, nous sommes au terme de cette première émission consacrée à Lazare. Nous sommes dans un moment d'intensité dramatique très fort. Merci à vous, Père Alain. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.